Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Son prénom est Georges et son nom est Dandin. Georges Dandin, difficile de l'oublier, il ne cesse de le répéter tout au long de la pièce. Et plus il le répète, plus l'homme semble se vider de sa substance, à moins que ce ne soit l'inverse. À moins que marteler ce nom soit sa façon d'affirmer haut et fort l'identité qu'il vient de se payer. Car Georges Dandin, pour s'acheter une particule et de paysan devenir un bourgeois, s'offre une épouse, Angélique. Il la paye rubis sur l'ongle à monsieur et madame de Sautonville, devenus ses beaux-parents. Mais Angélique, qui est jeune mais pas sotte, ne se laisse pas faire. Et voilà que Dandin, le parvenu, devient Georges le cocu. Que raconte de notre société actuelle ce drôle de personnage dans lequel Molière avait sans doute mis beaucoup de lui-même? Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Georges Dandin d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui, sans Molière, ne serait pas vraiment lui-même. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Descendez, ma fille, et venez ici.
J'atteste le ciel que j'ai
été dans la bouche. C'est une extravagance qui n'est pas supportable.
Mais de la foudre m'écrase tout à l'heure.
Ne nous rompez pas davantage la tête. Et songez à demander pardon à votre femme.
Moi? Demander pardon?
Ouais, pardon. Et sur le champ.
Quoi? Je...
Fardin! Si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous!
Jean-Pierre Vincent, vous mettez en scène Georges Dandin, pièce de Molière, un spectacle qui a été créé en février à Vire, au Théâtre Préau, que co-dirige avec Pauline Salle Vincent Garanger, qui est l'interprète de votre Dandin, un spectacle qui va tourner sur les routes de France, on va donner les dates à la fin de l'émission. Et vous mettez en scène cette comédie en étant ce que vous êtes, c'est-à-dire un artiste engagé et un artiste engagé à gauche, c'est-à-dire un artiste qui n'a jamais dissocié, me semble-t-il, le théâtre d'une pensée politique. Mais votre pensée n'est pas figée. Alors on n'ira pas jusqu'à dire de cette représentation, Jean-Pierre Vincent, qu'elle est militante, mais ce qu'elle raconte de l'impossibilité d'une classe sociale à sortir des cadres qui lui sont assignés me paraît assez terrible et toujours d'actualité et sans doute aussi de plus en plus complexe. Avant de vous rencontrer, j'ai lu dans Le Monde un papier qui est paru il y a quelques jours qui faisait état de la scission profonde entre les élites et le peuple. Et dans ce papier, on pouvait lire ceci. En 30 ans, les citoyens les plus aisés sont parvenus à se construire un confortable entre-soi, loin du vulgum pecus, dont ils ne savent plus rien, du mode de vie, du raisonnement ou des aspirations. J'ai pensé à cette thèse en voyant la représentation, Jean-Pierre Vincent, thèse défendue par un politologue qui s'appelle Jérôme Fourquet et qui dit que les riches auraient cessé de faire nation. Parce que je me demandais si dans votre façon de mettre en scène la pièce de Molière, c'est-à-dire en l'étoffant d'une réelle brutalité, vous aussi, vous ne disiez pas quelque chose de la séparation entre les nantis et les autres, quelque chose d'une société à deux vitesses, à deux étages, que plus rien ne saurait réconcilier.
Déjà, de gauche me semble une expression assez dévaluée. Je préfère marxiste. Je suis un marxiste non communiste depuis toujours. Et je n'utilise pas que le matérialisme historique pour analyser les textes, en particulier les textes du passé d'ailleurs, mais aussi Freud, mais aussi Derrida, mais aussi Lacan, mais aussi Stiegler, etc. Je ne fais pas partie, et je n'ai jamais voulu faire partie de cette élite parisienne, même quand j'étais administrateur général de la Comédie-Française, où je disais presque toutes les semaines à Jacques Lang que je n'étais pas là pour préparer la réélection de François Mitterrand, mais pour préparer l'avenir de la Comédie-Française comme théâtre d'art. Et l'art comprend aussi, évidemment, ce qui reste de la vision politique du monde que, il me semble, beaucoup de gens de théâtre ont, et que beaucoup de gens de la politique et les experts qui nous parlent sans arrêt de la vie qu'on vit non plus. Voilà. Alors, je lis Georges Dandin et j'y trouve pas seulement deux classes, j'y trouve le fond de la société française tel qu'il a à la fois changé et tel qu'il n'a pas changé. Tous les jours, en répétition, nous nous disions des noms de la vie politique actuelle. Du président de la République à la manif pour tous, à plein de choses. Et évidemment, à la lutte des jeunes femmes pour se faire reconnaître comme existant autant que les hommes dans ce monde qui n'en finit plus de patriarcat. Voilà. Donc, ce qui me semble intéressant, et pourquoi au fond je revais vers Molière, sans en actualiser les costumes, ni la forme, ni la langue, mais la pensée, c'est qu'il me semble très important de raconter à mes contemporains qu'ils sont des êtres historiques, qu'ils sont le fruit d'une histoire et de luttes, qui ne sont pas seulement les luttes ouvrières du XIXe siècle, qui sont des luttes de classe qui se produisent depuis la naissance du christianisme, hein, grosso modo, et même sans doute avant, et qui nous font ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est pas la même chose pour un Allemand, c'est pas la même chose pour un Italien, c'est pas la même chose pour un Anglais. Nous sommes particuliers et nous sommes le fruit d'une histoire. Et cette histoire, il est très important que les gens en prennent conscience. Voilà. Il se trouve que cette histoire est terriblement actuelle aussi. Anormalement actuelle. On devrait se dire qu'une histoire du milieu du XVIIe siècle devrait être depuis longtemps obsolète. Non, non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Un parvenu, c'est un parvenu. Un riche Versaillais, c'est un riche Versaillais. Un aristocrate qui se croit toujours à la tête du mythe de notre pays, ben, ça existe toujours. Et des choses comme ça. Et des femmes qui sont achetées ou qui sont prises comme des auxiliaires des hommes, etc. Et ça existe toujours. Et des paysans muets, qui n'en votent pas moins, et il y en a toujours aussi.
Oui, mais pourquoi ce Georges Dandin, dont vous dites qu'il est un parvenu, vous n'en faites pas autre chose que un parvenu, Jean-Pierre Vincent? C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un désir d'élévation sociale, on peut avoir un désir de sortir de sa classe sociale pour basculer dans une autre classe sociale, sans pour autant que l'opprobre vous soit jeté dessus. Or, vous ne faites rien pour le sauver, ce Georges Dandin, au fond de sa propre misère humaine et du jugement de l'autre, ce qui est assez surprenant, je trouve.
Faire fortune, c'est employer des moyens pour faire fortune qui font de vous quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est moins humain que ce que vous étiez avant. Et je ne vais pas faire autre chose que de raconter l'histoire d'un mec qui s'est pris pour un autre, qui a changé de nom, qui s'est acheté une femme de petite aristocratie. C'est les faits, c'est comme ça. Et qui se trouve face à un phénomène qui lui dit « plus dure sera la chute ». Il essaie désespérément de retrouver son identité. À chaque fois, mais son identité, c'est d'être cocu. Il veut absolument prouver au monde entier, y compris au ciel, qu'il est cocu. Parce que, au moins, ça lui fera une identité. On est loin du marxisme, de la lutte des classes et de la gauche. Là. Mais en France, aujourd'hui, on est très loin du marxisme, de la lutte des classes et de la gauche. Aussi.
Mais est-ce que Georges Dandin, étant cocu, est du côté des humiliés?
Ce qui est formidable avec Dandin, et c'est ça la farce, c'est qu'il est au début humilié, mais que s'il arrive à prouver qu'il l'est, il est en pleine gloire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va finir par penser que s'il arrive à prouver qu'il est humilié, il ne le sera plus. C'est formidable.
Donc en fait, quand il répète son nom à longueur de pièces, Georges Dandin, Georges Dandin, loin d'épuiser son essence, il est en train de trouver sa raison d'être.
Alors, ce Georges Dandin répété, pour moi, et c'est très difficile à faire pour Vincent Garanger, je le vois, je le sais, c'est d'habitude, tu l'as voulu Georges Dandin, tu l'as voulu, c'est dans le rythme. Pour moi, Georges Dandin, dans cette pièce, c'est juste qu'à un moment lui apparaît sa photo de petit garçon. L'homme, l'être humain qu'il était, et qu'il n'est plus. Tu l'as voulu. Et tout d'un coup, il passe dans sa tête, Georges Dandin. Tu l'as voulu. C'est une pièce beaucoup sur l'identité. Hein. Il a voulu transformer son identité, et effectivement, il l'a transformé, et il n'a pas les moyens de penser cette chose-là. Il se base sur des petites choses matérielles, et le fait d'être cocu devient obsédant pour lui. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il marche sur la gueule d'une jeune fille qu'il a achetée. Alors, nous avons l'école des femmes de Molière, hein, nous avons dans Tartuffe, nous avons le rapport de Don Juan avec les paysannes, et même le rapport d'Alceste avec Célimène, qui sont peut-être, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, le résultat du mariage de Molière avec Armande Béjart, mais quelque chose d'une analyse cruelle, profonde, auto-accusatrice, même lucide de Molière, sur le rapport entre un homme d'un certain âge, parce qu'il était déjà d'un certain âge, et une jeune femme qui n'est pas sotte, qui a des désirs absolument normaux, qui apparaissent anormaux à un mari de ce moment-là. Mais enfin, les maris d'aujourd'hui, j'en suis témoin souvent, ne sont pas loin de Georges Dandin. Sauf que Georges Dandin est à l'origine, ce Georges Dandin qu'il répète, est un paysan qui résolvait les problèmes en battant sa femme. Celle-ci, il ne peut pas la battre. Et c'est aussi un problème de son identité. Et je pense qu'on a bien montré dans le spectacle toutes les occasions où Georges Dandin pourrait battre une femme. Pas seulement Angélique, mais Claudine. Alors, le problème de Claudine, c'est vachement intéressant. C'est que c'était joué par la Béjart, celle avec qui peut-être il avait fait Armande, la chef de la troupe, l'administratrice, quoi. Celle qui jouait Dorine, celle qui jouait toutes les servantes qui résistent à Molière acteur. Et un pauvre type de passage essaye de la séduire et elle lui donne une leçon. Et elle se bat d'égal à égal avec Dandin et à la fin, elle démissionne, elle s'en va. Elle lui jette les clés à ses pieds et elle s'en va.
Parlons des Sautenville. Les Sautenville, ce sont les parents, les aristocrates ruinés qui vendent leur fille à Dandin. Vous dites, il l'achète à quelqu'un, il l'achète aux parents, Jean-Pierre Vincent. Les Sautenville qui, à la fin, ne souhaitent pas qu'il y ait séparation du couple, alors que tous les deux, et Dandin et Angélique, sa jeune épouse, souhaitent la séparation. Quelle est la place qu'ils occupent dans cet échiquier-là, les Sautenville, père et mère?
C'est un couple qui, pour moi, représente, depuis toujours, la France, que je déteste, bon, mais qui existe, on la voit ressurgir, elle n'est jamais morte. Quand Mitterrand a été élu, et vous savez, il y a eu ce congrès de Rennes, où les socialistes se sont empaillés, et où il a dû leur dire, faites attention les gars, la France est un pays de droite, on a été élu contre la raison. Et donc, il faut faire en sorte de maîtriser la situation et pas simplement de faire joujou à l'intérieur de la gauche. Voilà. Hein. Et je les vois ressurgir. Alors, je les ai connus quand j'étais petit. Je les ai reconnus quand, dans mes premiers spectacles, soit avec Chéreau, soit avec Jourdeuil, on s'est occupé de la petite bourgeoisie réactionnaire, etc. Je les ai reconnus quand j'ai fait un spectacle sur Vichy. Et en fait, c'est quelque chose qui me travaille, c'est-à-dire comment la France, et pourquoi la France ne peut pas se moderniser à un moment donné. Il y a quelque chose comme des forces qui la tirent en arrière, qui viennent de la fille aînée de l'Église, contre laquelle Molière s'est battu pendant 4 ans jusqu'à devoir abandonner, d'ailleurs, hein, depuis l'école des femmes jusqu'à Don Juan. Après, je pense qu'on n'a pas les documents internet de l'époque, mais que Louis XIV lui a dit « Je t'ai soutenu jusque-là, maintenant tu arrêtes. Tu arrêtes de taper sur cette France catholico-réactionnaire. On ne peut pas tenir le coup. » Et d'ailleurs, lui-même, Louis XIV, est devenu le roi dévot que l'on connaît, petit à petit et un peu plus tard. C'est quelque chose de très marquant dans la société française, pour moi. Et c'est Sotteville, on sait, d'habitude, on les caricature. Là, ils ne sont pas caricaturés, chez nous. C'est des vrais gens qui ont des vrais problèmes d'argent. C'est ça aussi la question. C'est que quand le père serre le bras de sa fille en tremblant d'Alzheimer et lui dit « tu sauves la famille, tu dois le faire » et qu'elle n'arrive pas à dire non, elle dit beaucoup non, hein, Angélique, dans cette pièce. Elle dit beaucoup, à toutes les scènes et très souvent. Elle n'arrive pas à le dire et elle s'en va. Et pour moi, alors, j'allais pas souligner avec 4 traits rouges et tout ça, mais pour moi, il est bien possible qu'elle va se suicider.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Cette pièce Jean-Pierre Vincent de la même manière il y a une 30aine d'années. C'est-à-dire, comme vous la montez aujourd'hui, vous dites sans caricature, c'est aussi ça qui est assez terrible, parce qu'on est face à quoi on peut pas tourner la tête pour regarder ailleurs, parce que ça se passe comme ça et personne n'est vraiment rattrapable à l'intérieur de cette représentation, sauf les femmes, mais on va y revenir. Est-ce qu'il y a 30 ans, vous l'auriez monté à l'identique?
Non, il y a 30 ans, de toute façon, je ne l'aurais pas monté du tout, parce que Planchon venait de la monter. Pour moi, le problème était réglé par Planchon. Ça a été une révolution dans l'histoire du théâtre français et en particulier dans l'histoire de la mise en scène dans le théâtre français. Pas seulement d'ailleurs ce Georges Dandin, mais sa seconde surprise de l'amour, les Trois Mousquetaires, tous les spectacles que Roger a fait entre 58 et 62 ont été une rénovation complète, assez brechtienne, très orienté sur le fond d'ailleurs de ce qu'était Roger, c'est-à-dire un paysan ardéchois aussi, hein, et un amoureux du cinéma. C'était ça essentiellement, enfin, pour Roger. Et le fait qu'il ait pu, passant de son petit théâtre des Marronniers à Lyon à la grande scène du théâtre de la Cité de Villeurbanne, amplifier son décor avec René Alliot à l'époque et faire un tableau, alors, très matériel, post-naturaliste, certes, d'un moment de la société française, d'un moment de la géographie française, qu'il connaissait très bien, parce qu'il a été le plus jeune décoré de la Résistance, hein, Roger. Il passait des gens à travers le Massif central et tout ça. Il la connaissait, la société française, comme Molière la connaissait, parce qu'il a traîné son chariot un peu partout, du Languedoc au Lyonnais, etc. C'est des gens qui ont connu charnellement la société française. Donc, Roger a fait une mise en scène qui faisait avancer le problème après, par exemple, l'époque Villard, où le théâtre l'esthétique du théâtre était presque nue. Il y avait des praticables, il y avait presque rien et tout ça, et tout d'un coup, il y avait de la matérialité en scène. Je me suis dit, pendant longtemps, il y a d'autres Molières, déjà, c'est pas la peine de s'occuper de celui-là. Il a tout dit. C'est, il y a 5-6 ans, vraiment dans un moment d'oisiveté, j'avais mis l'application Tout Molière dans mon téléphone, et j'ai déroulé les titres, et j'ai lu sur mon portable Georges Dandin, effaré par la violence directe, sèche, droite de ces trois actes d'humiliation successifs, répétitifs, etc. Après, en travaillant, évidemment, ça s'est différencié, cette vision. Mais j'ai été frappé parce que je ne me souvenais plus, à cause du décorum de la mise en scène de Planchon, je ne me souvenais plus de cette simplicité de l'humiliation sociale. Quoi. Voilà.
Je reviens à ce que vous disiez en ouverture de cette émission, quand vous disiez « je peux avoir des entrées dans des pièces qui sont marxistes, mais qui peuvent être aussi empruntées à Bernard Stiegler et aussi lacanienne ». Et je reviens à ce que vous disiez, quand vous disiez « l'identité de Dandin, c'est justement de devenir un cocu ». Est-ce que ça, c'est l'approche lacanienne ? Est-ce que c'est l'approche psychanalytique ? Finalement, à l'inverse de Roger Planchon, que ça ne préoccupait visiblement pas tant que ça.
En fait, le mot cocu ne m'a pas très beaucoup préoccupé. Non, je ne me suis pas préoccupé de cette notion-là. Vraiment, je me suis préoccupé de celui qui a voulu être quelqu'un d'autre et qui n'est que ce qu'il est et qui n'arrive pas à se le figurer. Voilà. Alors, ce qui me semble aussi très, très intéressant, c'est que c'est bourré de lutte des classes. Ce truc-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la non-lutte des classes. C'est-à-dire le refoulement de la lutte des classes dans la société française. Il y a des oppositions évidentes, visibles, majeures, et au fond, personne ne semble en avoir vraiment conscience. Alors, il y a des périodes où ça s'est produit de façon très dure. Il y a eu des manifestations ouvrières, des grands moments de la classe ouvrière. Mais si je vis aujourd'hui, je vois bien que tout ça n'est plus que de pauvres mots dans la société française.
Mais est-ce que la lutte des classes, si j'en reviens à la pièce de Molière et à votre travail de metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, est-ce que la lutte des classes aujourd'hui, c'est pas, appelons ça la lutte des classes, mais ça peut être le combat des opprimés ou le désir d'émancipation, c'est pas par les femmes que ça va passer. Est-ce que c'est pas ça aussi que dit la représentation, que ce soit Claudine, la servante, ou que ce soit Angélique, la jeune épouse?
Oui, c'est vrai que, par exemple, les rapports de classe entre la jeune aristocrate et la servante sont un peu neutralisés dans la pièce parce que elles sont solidaires. Seraient-elles solidaires tout au long de la vie? C'est une autre question. En tout cas, dans la pièce, elles le sont. À leur manière, elles le sont. Et ce n'est pas une lutte des classes, c'est une lutte des sexes. C'est tout, hein.
Oui, il y a une chose qui me frappe, Jean-Pierre Vincent, et quand j'ai vu le Georges Dandin, c'est entré dans cette réflexion que je me fais depuis quelque temps. Je trouve qu'il y a depuis quelque temps pas mal de spectacles où se croisent justement de manière assez percutante ce qu'il en est, je reviens à l'expression lutte des classes, ce qu'il en est de la lutte des classes aujourd'hui, ou du conflit social, ou de l'impossibilité peut-être même du conflit social, et ce qu'il en est du rapport entre les hommes et les femmes. En tout cas, entre des minorités et des gens qui s'élèvent ou qui font entrave à l'émancipation de ces minorités. Et je voyais récemment une mise en scène de Mademoiselle Julie de Strindberg, j'ai pu voir la mise en scène de Un mois à la campagne par Alain Françon, pièce de Tourguenieff, et je trouve que quelque chose est en train de se percuter entre le combat que mènent les femmes, mais on peut étendre la chose, et peut-être justement un combat social qui n'arrive plus à se dire, qui n'arrive plus à se faire, qui n'arrive plus à être porté par qui que ce soit. Et je pense que votre mise en scène s'inscrit dans le même cheminement.
Mais je crois qu'en ce moment, tout bouge. Ça devrait être normal depuis longtemps. Ce mélange des conflits. Et en particulier des conflits de classe et des conflits entre masculinité et féminité. Ça m'a frappé quand j'ai relu la pièce Georges Dandin il y a 5 ans, et tout d'un coup, depuis 3 mois, tout le monde me parle de cette question-là, alors que personne n'en parlait avant, véritablement, ou pas de la même façon, en tout cas de façon schématique. On est dans le vivant. Alors, bien sûr que par rapport à l'apparente simplicité de nos visions sociales d'il y a quelques années. Ça peut paraître brouiller les cartes. Ben oui, brouillons les cartes pendant un moment. Faisons attention, comme dit Stiegler. Faisons attention à nous, aux autres.
Et cette ruralité dont vous parliez aussi, cette ruralité que vous mettez en scène grâce à la complicité de Jean-Paul Chambaz qui vous accompagne de manière d'ailleurs fidèle sur la scénographie et le décor. Il y a un tas de fumier sur le plateau, le cul d'une vache. Cette ruralité, vous pensez qu'on est en train de l'oublier aussi et que ce signe que vous envoyez, elle est là, elle est présente dans un univers où finalement elle n'a pas à être. C'est aussi pour vous une façon de, là encore, de désigner des êtres qui sont reclus dans le silence maintenant ?
Dans le spectacle, la ruralité n'est qu'un souvenir. C'est ce que j'ai imaginé. C'est que ce Georges Dandin a fait un pognon fou en vendant veaux, vaches, cochons, poulets à la grande ville d'à côté, peut-être à Paris, peut-être à Orléans ou je ne sais où. Bon. Et que il a acheté d'autres terres et il a produit d'autres veaux, vaches, cochons, poulets. Il est devenu un gros industriel à l'avant la lettre de l'agriculture. Il est allé à Paris, il est allé à Versailles, il a été fasciné par le jeune roi, le château, tout ça. Le spectacle commence dans un rêve de la cour d'honneur du palais de Versailles, où Dandin danse une sorte de truc, de danse magique, de folie, et puis la lumière change. Et il y a un petit berger qui chante une chanson assis sur un tas de paille devant une demi-vache et un tas de fumier. En fait, le sol à côté, c'est le sol de la cour d'honneur de Versailles. Mais c'est pas encore fini de construire, alors on a laissé un peu des choses. Et cette demi-vache, c'est une sorte de souvenir ou de non-souvenir, enfin de... du Georges Dandin, qu'il répète sans arrêt, oublié. On ne sait même pas s'il le regrette, d'ailleurs. Il y a des petits agriculteurs et il y a des très gros agriculteurs. Et il est devenu un très gros agriculteur.
Qu'est-ce qui vous inspire à vous, humainement, ce Georges Dandin, Jean-Pierre Vincent ? De l'amitié, du mépris, de la pitié ?
De la pitié, oui. Oui, il y a des fois je pleure, oui. Comme il pleure, lui. Mais ce n'est pas la pitié que j'ai vu dans des mises en scène dans le passé, du pauvre paysan, etc., etc. C'est juste un homme, un gars qui s'appelle Georges Dandin, Georges sans S, comme Georges Sand. Un gars, et ce gars, je m'interdis de le juger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il me raconte un bout de l'histoire de France.
Merci à vous, Jean-Pierre Vincent, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle les dates de tournée de votre Georges Dandin, qui est aussi celui de Molière. Le spectacle est proposé à 7, les 29 et 30 mars à Narbonne, les 4 et 5 avril au Gymnase à Marseille, du 10 au 14 avril à Caen, du 17 au 19 avril à Dijon, du 24 avril au 5 mai, à Besançon les 23 et 24 mai et à Dunkerque les 29 et 30 mai. J'ajoute qu'on le verra à la MC 93 de Bobigny fin septembre. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre. Inès Duperron, Jacques Azubert, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Il est 16h sur France Culture. Restez bien à l'écoute.